Nous allons procéder à la désignation d'un secrétaire ou d'une secrétaire de séance et je propose notre collègue Michel Payalonga. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous fais part des procurations que j'ai reçues. Monsieur Georges Point a donné procuration à Jean-Paul Montagnier, maître Jean-Paul Montagnier. Monsieur Jean-Luc Dacosta a donné procuration à Lionel Muret. Marlène Thibault a donné procuration à Jean-François Mengui. René Sauvera a donné procuration à Michel Payalonga. Martine Seller a donné procuration à Laurent Arcusé. Je vous fais part aussi des divers remerciements que nous avons reçus. Les familles Chavani et Vitenay nous remercient pour la sollicitude dont nous avons fait preuve lors du décès de, malheureusement, la petite Ambre Chavani. La famille Ostalier également nous remercie d'avoir participé à leur peine après le décès de Léon Ostalier. L'amical laïque de Camaret nous remercie pour les lots que l'association a reçus pour l'organisation de son loto en bénéfice des écoles publiques de Camaret. C'était le dimanche 22 janvier dernier. Marlène Thibault nous remercie pour la mise à disposition d'une salle à la Maison pour tous dans le cadre de l'organisation des élections des primaires citoyennes de la belle Alliance populaire des 22 et 29 janvier dernier. Et est également remercié M. Dominique Bortolotti pour sa disponibilité, ainsi que tous les agents qui ont participé à la mise en place de la salle. Voilà. Vous avez reçu le procès-verbal de la dernière séance. Est-ce qu'il appelle de votre part des remarques ou des questions ? Alors, je le mets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à l'ordre du jour. Je vous indique que le dossier numéro 2 est retiré. La délibération numéro 2 est retirée temporairement en attente d'avoir davantage d'éléments techniques. Il s'agissait d'une demande de subvention auprès de l'État pour la rénovation thermique et le chauffage de l'école Mistral. Et donc, nous en venons au dossier numéro 1, débat d'orientation budgétaire, rapporteur Sylvette Gilles.
Conformément à l'article L2312-1, L3312-1 et L4312-1, le Code général des collectivités territoriales, ainsi que l'article 107 de la loi NOTRe, l'adjointe déléguée aux finances présente un rapport sur les orientations budgétaires proposées pour l'année 2017, sur la structure et la gestion de la dette et les engagements pluriannuels envisagés après avoir procédé à une analyse financière rétrospective. Une discussion entre élus suivra la présentation de ces orientations. Il est demandé au conseil municipal de prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire, de prendre acte du rapport sur la base duquel se tient le débat d'orientation budgétaire. L'analyse des résultats de l'exercice 2016. Le résultat de clôture du budget principal présente un excédent de fonctionnement de 537 000 euros. Je vais arrondir si ça ne vous ennuie pas. Sera plus simple, et un excédent cumulé d'investissement de 113 000 euros, en tenant compte de l'excédent reporté de 2015 de 274 000 euros, soit une balance de clôture excédentaire de 650 800 euros. Pour la section de fonctionnement, les dépenses sont de 5 265 000 euros, soit plus 4,31% par rapport à 2015. Il contient de tenir compte dans ses dépenses d'une opération d'ordre liée à une cession immobilière à hauteur de 113 000 euros au chapitre 042, que l'on retrouve en recette d'investissement pour la même somme, donc sans incidence sur le résultat de fonctionnement. Sans cette opération, les dépenses de fonctionnement se montent à 5 152 000 euros, soit une hausse de 2,07% par rapport à 2015. On retiendra pour le détail la poursuite de la diminution des charges à caractère général au chapitre 11, qui s'élève à 1 248 000 euros, soit une diminution de 60 000 euros, 4,6% par rapport à 2015. On notera particulièrement la baisse des dépenses en matière d'eau, moins 3 000, d'électricité, moins 9 500 et de gaz, moins 14 000 euros. La négociation mutualisée des nouveaux tarifs en matière de fourniture d'électricité à pic au 1er janvier 2016 ont permis dès cette année de réaliser des économies importantes. Les charges de personnel s'élèvent à 3 millions d'euros au chapitre 12, plus 4,7%. Les facteurs expliquant cette hausse sont les suivants, le reclassement statutaire des catégories B, les avancements d'échelons et de grades, les astreintes et heures supplémentaires de la police municipale et des services techniques, et l'augmentation substantielle des charges. Et surtout, il faut tenir compte de la présence sur l'année complète du quatrième agent de police municipale et du chef de la cuisine centrale, sans oublier le coût en personnel des temps d'activité périscolaire. Les autres charges de gestion courante au chapitre 65 s'élèvent à 527 000 euros, plus 16 000 euros par rapport à 2015, soit 3%, dont 2 000 euros de hausse pour les cotisations aux divers syndicats aux forêts, plus 6 445 euros du forfait scolaire à Saint-Andéol, plus 8 000 euros de participation au Conservatoire d'Orange avec un rappel 2014-2015, et plus 3 755 euros de subvention supplémentaire au CCAS. Au chapitre 14, il convient de noter le FPIC qui s'élève à 86 732 euros, soit une hausse de 35 000 euros par rapport à 2015, de 70%. Concernant les recettes, 5 800 000 euros, en hausse de 1,58%. Il convient d'intégrer à ce chiffre l'opération d'ordre mentionnée en dépenses. Ce bon résultat est dû à l'optimisation des recettes. On notera une progression de près de 29 000 euros des produits de services par rapport à 2015, plus 6%. Les impôts et taxes ont rapporté 4 millions d'euros en 2016. Si le produit de la fiscalité directe a légèrement diminué, on notera en revanche une forte progression de la taxe additionnelle sur les droits de mutation avec 162 000 euros, plus 25 000 euros par rapport à 2015. On déplore, comme l'an passé, une baisse au chapitre 74, les dotations et participations, qui s'élèvent à 860 000 euros, soit 59 000 euros par rapport à 2015. Les aides pourtant en hausse de la CAF et de la MSA, notamment sur les services enfance et jeunesse, ne compensent pas la baisse de la DGF. Dans un contexte budgétaire et financier de plus en plus difficile, pour les collectivités territoriales, la commune dégage donc un excédent de fonctionnement de 535 000 euros. Cet excédent constitue l'autofinancement ou l'épargne brute du budget 2017 et sera versé à la section d'investissement en recettes avec couverture prioritaire de la nuitée d'emprunt, soit 245 000 euros. Pour la section d'investissement, les dépenses sont de 1 900 000 euros et les recettes de 1 700 000 euros. Ce qui donne, après le report de l'excédent cumulé de 2015, plus 274 000, un excédent de clôture de 113 000 euros. Compte tenu des restes à réaliser, en dépenses 405 000 euros et en recettes 332 000, le résultat définitif d'investissement excédentaire est de 39 784 euros. Les principales dépenses en section d'investissement. Qu'est-ce que...
Sur la page 4, je crois que sur la page 4, clôture en investissement, d'un côté, vous avez 35 000 en dépenses, et là, 400. Ah oui, pardon.
Voilà, vous m'entendez? Donc je disais, oui, juste une petite remarque là sur le résultat de clôture d'investissement. Vous nous indiquez sur la page d'avant, dépenses 405 370 euros. Et si j'ai bien compris, sur la page suivante, 406 370 euros. C'est une erreur de frappe, on est d'accord. Ok.
C'est pas la même chose.
405 000, oui.
Non, voilà. L'excédent de fonctionnement, c'est bien. Non, c'est ça, c'est les restes à réaliser. Alors, c'est ça.
Ah oui, oui, oui. Oui.
C'est à la marge.
Donc c'est 405 000 alors.
C'est d'accord. 400...
Oui, 405 000, 405 370. D'accord. D'accord. Donc le résultat de 39 784. Les principales dépenses en section d'investissement. La fin des travaux de la phase finale du Tourneville pour 227 000 euros. Les travaux de voirie pluviale et aménagement paysager pour le chemin de la Dame et la chapelle Cœur de Marie pour 155 000 euros. Les divers travaux de voirie et réseau, 141 900 euros. L'aménagement d'une classe de l'école maternelle, 163 000 euros. La réfection de la toiture de l'école maternelle, 89 900. La salle polyvalente foot, animation et les abords, 251 000 euros. L'entretien et rénovation des bâtiments municipaux, hors école et hôtel de ville, 121 000 euros. Parmi les principales recettes en section d'investissement, 326 000 euros de subventions pour différents projets, 32 000 euros au titre des emprunts contractés, 132 000 euros au titre du FCTVA, 36 000 euros de taxes d'aménagement, 113 000 euros de cessions mobilières et immobilières. Pour les orientations 2017, en section de fonctionnement, pour les dépenses, les charges à caractère général au chapitre 11, les bons résultats 2016 concernant la réduction des consommations énergétiques anneau et anneau, devront être maintenus et amplifiés en 2017. La poursuite des travaux d'amélioration des performances énergétiques dans nos bâtiments s'inscrit dans cette perspective. Le travail sur les dépenses de téléphonie engagées en 2016 devra permettre de réaliser sur ce secteur en 2017 des économies dans le même sens. La commande publique continue d'être soumise à la mise en concurrence systématique, quel que soit le seuil. Pour les achats et les services non soumis légalement aux procédures adaptées de marché public, la règle d'or des trois devis avec une négociation si nécessaire est toujours appliquée. Les contrats de vérification périodique négociés et renouvelés fin 2016 vont permettre de dégager une légère économie malgré l'augmentation des sites à vérifier et la multiplication des normes à contrôler. D'autres sources d'économie seront impérativement recherchées à tous les niveaux de la collectivité. Les élus et le personnel communal y sont sensibilisés et associés pleinement. À noter que les contrats d'assurance dommages aux biens, flotte, véhicules et responsabilités négociés fin 2016 permettront une économie annuelle de 7 000 euros dès 2017. Cependant, l'assurance statutaire du personnel verra un surcoût de 16 000 euros suite à l'augmentation à compter du 1er janvier 2017 du taux de cotisation des collectivités affiliées au groupe du CDG 84 pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL. Pour le personnel communal, au chapitre 12, il faudra tenir compte de l'effet GVT, de la revalorisation indiciaire toute catégorie, des avancements d'échelon et de grade, des astreintes de la police municipale et des heures supplémentaires, et de l'augmentation substantielle des charges. Pour le deuxième semestre 2017, plusieurs départs à la retraite sont prévus. Ils seront remplacés au moins à temps partiel. Cependant, le recrutement d'agents ayant moins d'ancienneté permettra de réaliser des économies en charge de personnel à l'issue de ces départs. Un recrutement sera mis à l'étude pour les services fonctionnels. Les recrutements saisonniers habituels seront maintenus dans les services enfance, jeunesse et technique. Et le contrat aidé financé à 60% via la mission locale d'un agent des services techniques sera reconduit. Il conviendra de veiller à la gestion rigoureuse des heures supplémentaires, la gestion des plannings, la récupération plutôt que rémunération. Pour les charges de gestion courante, au chapitre 65, il conviendra de stabiliser ces dépenses en 2017, voire de les faire diminuer. Elles comprennent en particulier la participation communale aux SDIS à hauteur de 127 000 euros, diminuée de 2 000 euros cette année, de la subvention au CCAS de 74 000 euros, du forfait scolaire alloué à l'école Saint-Andéol de 42 000 euros, des subventions aux associations pour un montant d'environ 123 000 euros, des contributions aux divers syndicats. La contribution au FPIC devrait rester stable par rapport à 2016, 86 000 euros, après avoir connu une hausse de 51 000 euros entre 2014 et 2016. Les dépenses prévisibles liées aux intérêts d'emprunt seront de 60 221 euros. Les dotations aux amortissements s'établissent à 199 900 euros, mais elles trouvent par une opération d'ordre leur contrepartie en recettes d'investissement. L'objectif 2017 est de stabiliser les dépenses réelles. Concernant les recettes de fonctionnement, l'essentiel de ces recettes est constitué par le produit fiscal, au chapitre 73. La revalorisation par l'État des bases fiscales n'est pas encore connue à ce jour. Les taux communaux resteront identiques aux années antérieures, soit 8,30% pour la taxe d'habitation, 20,80% pour la taxe sur le foncier bâti, et 57,11% pour le foncier non bâti. Ces taux sont dans la moyenne nationale et départementale de la strate. Ainsi, l'augmentation du produit fiscal ne proviendra que d'un effet base. Ensuite, vous avez un tableau avec l'évolution des bases communales entre 2013 et 2016. Le PLF 2017, prévoyant que les bases fiscales augmenteraient de 1,004%, la recette de fiscalité 2017 peut donc être estimée à 1 671 000 euros. Les autres recettes de fonctionnement. Pour la quatrième année consécutive, les dotations de l'État aux collectivités baisseront. Pour Camaret, en 2017, la DGF devrait être de 113 000 euros environ, soit une perte de près de 54 000 euros, soit 38,95% par rapport à 2016. Au final, en 2017, la commune verra sa DGF diminuer de près de 300 000 euros par rapport à 2013. Le montant de l'attribution de compensation, 2 154 000 euros en 2016, versés par la communauté de communes, en lieu et place de l'ex-taxe professionnelle, sera sans doute modifié cette année suivant la décision du CLETC, Commission locale d'évaluation des transferts de charges, au vu des transferts de charges statutaires prévus au 1er janvier 2017. Parmi les autres recettes de fonctionnement, on peut citer le produit des loyers, des services gérés en régie, le produit lié aux occupations du domaine public, les participations de nos cofinanceurs, les participations et subventions d'autres communes et collectivités territoriales, la taxe additionnelle sur droit de mutation à titre onéreux. On peut estimer les recettes de fonctionnement à 5,4 millions d'euros. Les dépenses de fonctionnement tiendront donc compte de ce prévisionnel, tout en prévoyant de maintenir un autofinancement, excédent de fonctionnement suffisant pour alimenter l'investissement 2018. Pour la section d'investissement, au niveau des dépenses, pour 2017, les travaux de réaménagement du stade de motobol ont déjà été engagés. D'autres projets sont programmés. Le lancement des travaux pour l'aménagement de l'ancien centre médico-social, la rénovation thermique et du chauffage de l'école Mistral, qui sera étalée sur deux exercices, la mise en conformité pour les PMR de l'hôtel de ville, la crèche et la bibliothèque, la rénovation de l'éclairage de la halle des sports avec un passage en LED, l'extension de vidéoprotection sous réserve de l'obtention de subventions, La restauration d'œuvres d'art avec les tableaux de l'église paroissiale et la restauration des anciens registres. Divers travaux de voirie, le renouvellement de véhicules et l'acquisition foncière avec Sérignan pour le projet de caserne de pompiers pour l'achat du terrain. Il faut noter le montant prévisible de la nuitée en capital de la dette, soit 185 000 euros. Au total, les dépenses réelles d'investissement inscrites au BP 2017 devraient s'élever à environ 1,5 million d'euros. Concernant les recettes d'investissement, elles proviennent des ressources propres de la commune par l'affectation du résultat provenant de la section de fonctionnement, soit 500 000 euros, de la taxe d'aménagement estimée à 30 000 euros, des subventions sollicitées auprès du département, de la région ou de l'État, de la recette due au titre du FCTVA en 2017, 232 000 euros, diverses opérations d'ordre entre sections pour un montant d'environ 200 000 euros, et le report de l'excédent d'investissement, 113 000 euros. L'exercice 2017 va donc encore connaître de nombreux investissements, cependant moindres que ceux de l'exercice 2016. Il s'agit également de faire une pause afin d'anticiper les chantiers 2018 et des années suivantes. Pour l'analyse de la dette, l'encours de la dette au 31 décembre 2015 est de 324 euros par habitant pour une moyenne de la strate de 788 euros. Au 31 décembre 2014, il était de 372 euros. 2016 a vu s'achever le remboursement d'un emprunt à taux variable auprès de Dexia, d'un capital initial de 274 000 euros. Ensuite vient un tableau avec l'état de la dette, avec le capital restant dû, le capital à payer sur la période et les intérêts pour 2016 et 2017. Les intérêts à taux fixe et les intérêts à taux variable. À noter un emprunt à taux fixe auprès de la CAF arrive à terme au mois de septembre. Au vu du calcul de la capacité d'autofinancement brut, notre dette peut donc être remboursée en 3,59 ans. Moyenne des communes de la même strate s'élève à 4,6 ans.
Merci. Donc, juste un petit commentaire en ce qui concerne ce débat d'orientation budgétaire, qui n'est pas facile à tenir, et surtout ce qui n'est pas facile, c'est d'avoir des données très précises, puisque en ce moment même, à Camaret, comme dans toutes les communes, malheureusement, il nous manque des données très importantes, les bases des taxes locales, ainsi que le montant des principales dotations de l'État, DGF et DETR. Ces différentes données ne nous ont pas encore été communiquées aux communes. D'ailleurs, un certain nombre d'entre elles repoussent le vote de leur budget primitif au mois d'avril, parce que pour l'instant, nous n'avons pas ces données. D'ailleurs, j'ai l'occasion de vous indiquer que il est fort possible que le prochain conseil municipal votant le budget primitif et la commission des finances soient reportés si nous n'avons pas, à la date prévue, les éléments qui nous manquent. Ça, c'est un premier point. Deuxième point sur lequel je voulais insister, globalement, les finances restent tout à fait saines, tout à fait intéressantes pour pouvoir continuer à développer et à investir et à embellir la commune. L'exercice 2016 a vu de très gros efforts de la commune en matière d'investissement, ce qui nous conduit pour l'exercice 2017 à ralentir un petit peu, à faire une petite pause dans les investissements, même si nous allons continuer bien entendu à investir, notamment en matière de voirie, ça c'est certain. en 2016 comme en 2017, nous avons été et nous allons être contraints là toujours par la baisse des dotations de l'État, par les augmentations de charges qui nous sont imposées. On y reviendra peut-être, mais en particulier la revalorisation indiciaire concernant le traitement des personnels qui nous est imposée par l'État. Mais quoi qu'il arrive, nous pouvons être fidèles à notre principe qui est de ne pas augmenter la fiscalité locale, si bien que, comme cela a été indiqué, nous ne prévoyons pas d'augmentation des taxes locales pour l'exercice 2017. Voilà, maintenant je pense que vous avez des remarques ou des questions à poser, et nous sommes tout oui.
Oui, deux remarques d'ordre général. Une concernant le fonctionnement. Donc, depuis toujours, vous ne cessez de répéter que vous alliez baisser le budget de fonctionnement, il augmente. Et donc là, on est sur une augmentation de 4,31%. Donc, chaque année, en fait, cette augmentation est de plus en plus importante. Alors, vous dites c'est dû aux augmentations de charges, aux avancements des agents. Mais tout ça est prévisible, tout comme les besoins d'une population qui grandit. Donc, quid de votre promesse par rapport au budget de fonctionnement. L'autre remarque concerne l'investissement. Donc, l'ancienne municipalité avait plutôt investi sur une crèche, une maison pour tous. Vous investissez plutôt sur une salle dite de convivialité pour le club de foot et dans le bitumage du stade de motoball. C'est ça le changement.
Je n'en attendais pas moins de vous, chers collègues. Alors, sur votre première remarque concernant les dépenses de fonctionnement, c'est vrai que nous avons annoncé une baisse de ces dépenses globalement, mais nous avons bien précisé que cette baisse devait s'évaluer sur le mandat, pas sur un exercice simplement. Donc je pense qu'il va falloir avoir un peu de patience, d'attendre la fin de notre mandat pour voir si effectivement nous avons tenu nos engagements. Toujours en ce qui concerne le fonctionnement, ce que nous avons d'ores et déjà tenu comme engagement, c'est les économies sur les charges à caractère général, en particulier les dépenses d'énergie, et nous allons poursuivre dans cette voie non seulement au cours de l'exercice 2017, mais jusqu'à la fin. Ça, nous y tenons. Pour le deuxième type de dépenses de fonctionnement qui est prépondérante en matière de dépenses de fonctionnement, ce sont les dépenses de personnel. Là encore, je pense l'avoir déjà dit, mais nous tenons nos engagements en matière de sécurité. Nous sommes engagés à embaucher un quatrième policier municipal. Donc il se trouve que lors de l'exercice 2017, nous avons eu à payer son traitement sur l'ensemble de l'exercice. Donc ça influe de manière assez importante, effectivement, le niveau des dépenses de personnel pour l'exercice 2017. Nous avons aussi l'étape. En équivalent plein temps, ça fait quand même une certaine somme. Cela nous a été imposé. Pour le coup, on essaye de rendre un service le meilleur possible à la population, sans d'ailleurs mettre à contribution les usagers, mais c'est un coût en personnel pour la commune. Nous avons aussi, au cours de l'année 2016, le traitement complet d'un chef de cuisine que nous avons embauché. Et si nous faisons une augmentation des dépenses de personnel avec l'embauche d'un chef de cuisine, au total, au final, le poste restauration scolaire nous a permis, avec ce recrutement, de réaliser une économie de 30 000 euros annuels, ce qui, quand même, est très très intéressant. Nous avons eu, donc je l'ai dit en préambule, la revalorisation indiciaire qui a été décidée par le gouvernement. Nous avons eu aussi un certain nombre d'agents qui ont été mis en maladie et que nous avons remplacés par nécessité de service pour justement ne pas nuire aux services rendus aux administrés. Donc en ce qui concerne ces dépenses de fonctionnement, sur le plan des charges à caractère général, elles sont en diminution. Et si elles sont en augmentation En ce qui concerne les dépenses de personnel, je souligne que c'est une augmentation qui est conjoncturelle, qui est temporaire, et que là encore, il faudra apprécier s'il y a une diminution ou une augmentation des dépenses de personnel à la fin du mandat. Ça, j'y tiens. Ensuite, vous avez évoqué les dépenses d'investissement. Alors là, je regrette un petit peu votre caricature en ce qui concerne les installations sportives qui ont fait l'objet d'investissements, il est vrai, important. En particulier, le motoball, là, je suis désolé, mais c'est un terrain qui, effectivement, a été changé, a été bitumé, mais l'opération concerne bien davantage que le revêtement du terrain. Il y avait aussi une mise aux normes électriques de l'éclairage des bâtiments. C'était extrêmement dangereux. Et là encore, si nous avons dû engager des dépenses, c'est parce que nos prédécesseurs ne l'avaient pas fait. Voilà. Donc, il y a aussi eu dans ce projet la possibilité de creuser un bassin de rétention, car il y a eu beaucoup de drames en France, dans le Sud-Est et dans le Vaucluse, dû aux inondations, dû à beaucoup de constructions qui se sont étendues. Là encore, nous ne sommes pas comptables de ces extensions de l'urbanisation, mais maintenant il faut quelque part payer la note et réaliser les investissements nécessaires à la sécurité des administrés. Là encore, si nous le faisons, c'est que d'autres ne l'avaient pas fait. Voilà, en ce qui concerne votre intervention, je regrette qu'elle soit un petit peu caricaturale. Y a-t-il d'autres remarques ? Maître Montagnier.
Oui, je voudrais simplement parler de la différence des 4,31. Je crois qu'il faudrait prendre encore en considération le virement de 113 000 qui ramène qu'à 2,07. Donc le 4,31, il faut le prendre pas sur la base de 5 265, mais sur la base de 5 152 d'une part. Secondo, mais je vois qu'il y a beaucoup d'économies. Hein, on nous a dit qu'on faisait des économies en électricité les autres années. Moi, je trouve que c'est très bien. L'ancien mandat, on avait des gens à l'électricité. On n'a jamais fait autant d'économies que maintenant. C'est tout ce que j'ai à dire.
Merci pour cette juste remarque.
Je suis très content de mes réactions. Je pense qu'il faut savoir être constructif et pas démolir. Merci.
Monsieur Mengui.
Oui, je reviendrai rapidement parce que j'ai regardé un petit peu, moi j'ai regardé les chiffres. Bon, sur les dépenses de fonctionnement, vous avez dit qu'il fallait juger à la fin du mandat. De 2013 à 2016, on est à plus 6,71% d'augmentation. Sur les charges de personnel, on est... Si on continue sur cette base-là, on était à 55% de charges de personnel par rapport aux dépenses de fonctionnement, on est à 57%. Pour les dépenses d'électricité, puisque Maître Montagnier en a parlé, effectivement, il y a 9 500 €. Bon, je crois qu'il va falloir que vous retourniez voir votre fournisseur, puisqu'il s'était engagé à une économie par an de plus de 14 500 € d'économie. Voilà. Puis j'interviendrai après peut-être sur d'autres aspects.
Y a-t-il d'autres remarques ? Et j'ai oublié tout à l'heure, mais on me le rappelle fort justement, nos investissements lors de l'exercice 2016 ne se sont pas limités à nos installations sportives. Je rappelle quand même ce que nous avons dû faire pour la Soleillado, la classe maternelle, qui a été complètement aménagée et rénovée. Et nous comptons encore faire des investissements cette année, cet exercice 2017, à l'école Mistral. Voilà, c'est pour ça que je regrette un peu l'aspect caricatural et un petit peu partial de certaines interventions. Alors, vous savez que la loi a un petit peu changé. Monsieur Mengui.
Oui. Merci. On pourrait regarder très rapidement les orientations 2017. Bon, là, on est sur des ordres de grandeur. Je pense qu'à l'occasion du budget, de l'analyse du compte administratif et du budget primitif, on rentrera peut-être un peu plus dans les détails. Voilà, donc, pour faire baisser les charges de personnel, a priori, vous envisagez des recrutés du fait des départs à la retraite des agents à
temps partiel. Alors moi, je m'inquiète un peu du développement de la précarité dans les pour les emplois communaux, d'une part, et d'autre part, le corollaire à ça, ce serait une baisse de qualité de service auprès des camarades et toi. Donc je vous alerte là-dessus. D'autre part, on a regardé en commission des finances la situation de la dette, et en particulier on a quelques emprunts à des taux très élevés. On en a 5,2, 5,5, 3,6 et 3,7. Alors moi, je ne sais pas si aujourd'hui les taux pour emprunter sont aujourd'hui plus intéressants, mais est-ce qu'il ne serait pas, je dirais, judicieux de renégocier ces emprunts pour trouver si les taux aujourd'hui sont intéressants, parce que s'ils sont à ce niveau-là, ça vaut peut-être pas la peine. Donc je pense qu'il sera intéressant pour la commune de renégocier ces emprunts. Et une dernière question sur les emprunts à taux variable. S'ils sont à taux variable, c'est peut-être une question de présentation, mais s'ils sont à taux variable, ils ne peuvent pas être à 0%. Donc je pense que on a du mal un peu à analyser ce document. Voilà.
Chers collègues, votre remarque concernant la renégociation des emprunts me paraît très pertinente, et ce d'autant plus qu'effectivement nous y avons pensé et que le processus est en marche. Donc nous verrons à l'issue de la négociation si c'est vraiment intéressant, mais effectivement, compte tenu des taux qui pourraient être pratiqués aujourd'hui, une renégociation semble effectivement tout à fait pertinente. Donc nous sommes en train de le faire, et nous vous en rendrons compte dès que cela sera terminé. En revanche, je trouve votre première remarque un petit peu moins pertinente et un petit peu schizophrénique, parce que d'un côté,
je vous en prie,
d'un côté vous élevez contre la hausse des dépenses de personnel, mais de l'autre, quand on trouve les moyens qui sont à notre disposition pour les faire baisser, vous dites ah oui, mais alors du coup c'est le service qui va être rendu aux camarades qui sera moins bien rendu. Voilà, je crois que il faut
affirmer, je vous ai alerté là-dessus en disant attention.
Oui, oui, oui. Mais voilà, votre sollicitude est très louable, notamment concernant la précarité de certains contrats, mais le problème pour une collectivité, c'est que qui dit contrat qui n'est plus précaire et qui est transformé en titularisation dit dépenses bien plus importantes en matière de personnel pour la commune. Donc voilà, le problème, c'est qu'il faut faire un choix.
Ouais, avec une nuance, c'est quand quelqu'un part à la retraite, il part avec un salaire plus élevé que celui qui le remplace.
Tout à fait, voilà. tout à fait. Mais il se trouve qu'un contrat précaire, c'est très dommage sur le plan humain, on le regrette beaucoup, mais un contrat précaire revient beaucoup moins cher à la commune qu'un fonctionnaire titulaire.
Juste pour préciser, on n'a jamais dit qu'on était pour une diminution des frais de personnel. Je dis simplement que c'était par rapport à votre promesse n'est pas tenue.
Michel Payalonga.
Oui, moi je voulais intervenir parce que je regrette que systématiquement on pointe du doigt les charges de personnel. Le personnel, sur une commune, on en a besoin. Il faut pas regarder ce que ça coûte, il faut surtout regarder le service qui est rendu. Donc si à un moment donné, les augmentations de charges personnelles, c'est qu'il y a eu un besoin sur la commune. Et à partir de là, c'est pas la peine de le montrer du doigt. Hein. Voilà.
Merci. Voilà, donc j'allais vous dire que vous avez aussi à votre disposition un certain nombre de tableaux et de schémas réalisés par la trésorerie d'Orange, valorisation du compte de gestion. Donc si vous voulez y jeter un coup d'œil, ou du moins pour la prochaine séance concernant le budget, il y a déjà un certain nombre de données et de graphiques tout à fait intéressants. Alors, je vous disais que la loi NOTRe avait changé un petit peu le processus en matière de débat d'orientation budgétaire. Auparavant, ce débat ne donnait pas lieu à un vote. Et là, maintenant, on nous demande de voter pour prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire et de prendre acte du rapport sur la base duquel se tient le débat d'orientation budgétaire. Donc maintenant, il faut voter. Ben, il faut voter en quelque sorte, d'après la loi NOTRe. C'est comme ça, hein, c'est encore... Non. Ben, la délib prend compte du changement de la loi, puisqu'on nous demande... Voilà. Maintenant, il faut voter pour prendre acte. C'est la loi. Encore un technocrate qui a jugé bon de modifier la loi sur ce, alors que sur le fond, ça ne change rigoureusement rien. Alors je vous laisse un petit peu, quelques secondes pour réfléchir à ce que vous allez voter, peut-être.
Non mais c'est vrai, c'est une
aberration. Ah ben c'est, oui.
On a pris acte, voilà.
On vote pour le même problème à la communauté de communes. Ouais. On vote pour le contenu du et à ce moment-là, c'est clair, mais...
Je ne vais pas vous dire ce que vous devriez voter, non, mais...
Je comprendrais qu'on vote pour contre le contenu,
mais là... Ben oui, c'est comme ça. Bon. On se lance ?
Je ne sais pas quoi vous dire.
Voilà, c'est...
Ben nous, je pense qu'on va voter pour, quand même. Hein, c'est... De toute façon, politiquement, ça ne vous engage absolument pas. Le vrai vote, c'est le budget primitif. Hein. Alors. Donc, formulé tel que dit dans la délibération, il est demandé au conseil municipal de prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire et du rapport, ce qu'on appelle maintenant le ROB, sur la base duquel se tient le débat d'orientation budgétaire. Qui est pour ? Ah oui, c'est... Voilà. Qui s'abstient, quand même qui est contre ? Voilà. On a pris acte à l'unanimité. Alors, rapport numéro 3. Tarif des repas et demande de subvention de la fête du plan de Dieu les 29 et 30 avril 2017. Rapporteur Elvire Théoki.
La commune de Camaret-sur-Aigle souhaite organiser la 9e édition de la fête du plan de Dieu les 29 et 30 avril 2017. La balade gourmande à l'occasion de la fête du plan de Dieu a connu un grand succès en 2016 avec plus de 1000 participants. Depuis 2011, la manifestation constitue un véritable outil de développement économique et touristique. Un partenariat avec les acteurs économiques du territoire a été créé. Syndicat AOC Plan de Dieu, chambre d'hôtes, restaurateurs, UCAV. Dans cette perspective, il est proposé de solliciter une subvention auprès du conseil régional PACA, du conseil départemental de Vaucluse, de la communauté de communes Aigle-Louvèze, de la commune de Travaillant, du Crédit Agricole, de Groupama et du syndicat AOC Plan de Dieu, d'organiser un repas avec participation financière des participants, de proposer des objets souvenirs à la vente. Vu le code général des collectivités territoriales, vu le budget de la commune, vu la délibération du conseil municipal en date du 30 avril 2003 portant création d'une régie de recettes et d'avances, fêtes et animations, considérant que cet événement, a une portée intercommunale, départementale et régionale, une subvention à la CCAOP, au conseil départemental de Vaucluse ainsi qu'au conseil régional PACA sera demandée. Considérant l'impact sur les entreprises locales et vu le nombre grandissant de participants, il est également demandé un sponsoring au syndicat AOC Plan de Dieu, ainsi qu'au Crédit Agricole et à Groupama, organismes très impliqués dans le soutien et le développement de l'économie locale. Considérant qu'il est nécessaire de définir les tarifs de participation au repas organisés par la municipalité dans le cadre de cette manifestation, considérant qu'il est intéressant en termes de promotion de proposer des objets souvenirs, vu l'avis de la commission des finances du 14 mars 2017, il est demandé au conseil municipal d'approuver le budget prévisionnel de la manifestation. Donc vous avez un tableau dépenses, recettes, animation, commune, repas, Donc le total des dépenses est de 40 000 euros et le total des recettes est de 40 000 euros. D'autoriser Monsieur le maire à solliciter une subvention auprès de la commune de Travaillant, de la CCAOP, du conseil départemental de Vaucluse et du conseil régional PACA, ainsi qu'au syndicat AOC du Plan de Dieu, au Crédit Agricole et à Groupama. D'approuver les tarifs de participation au repas à l'occasion de la balade gourmande du 30 avril 2017 comme suit. Repas des participants 29 euros par adulte et 8 euros par enfant de moins de 12 ans. D'approuver les tarifs de vente d'objets souvenirs, chapeau, casquette 5 euros, tablier 10 euros, verre sérigraphié 3 euros l'unité, 15 euros le carton de 6. Il est précisé que ces recettes seront perçues par la régie fêtes et animation et encaissées sur le compte budgétaire 7062 sur certificat administratif pour les repas et sur la quittance pour les objets souvenirs.
Merci. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 4. Opposition au transfert de la compétence plan local d'urbanisme à la communauté de communes Aigues-en-Provence. Rapporteur Christine Winkelmann.
Vu la loi 2014-366 dite Allure du 24 mars 2014, vu la loi 2015-991 dite Nôtre du 7 août 2015, considérant que, conformément aux termes de la loi Allure, la commune doit se prononcer sur le transfert de la compétence du plan local d'urbanisme à son intercommunalité d'appartenance dans les 3 mois précédant la date anniversaire des 3 ans de la loi Allure, soit avant le 26 mars 2017. Considérant qu'il paraît prématuré de transférer le plan local d'urbanisme alors même que le SCOT est en cours d'élaboration et qu'il représente un document d'urbanisme d'une autorité supérieure dans la hiérarchie des normes. Considérant que le PLU est l'outil fondamental du pilotage de l'urbanisation à l'échelon communal, considérant la mise en place récente du PLU de la commune de Camaret-sur-Aigues, il est demandé au conseil municipal de s'opposer au transfert de la compétence plan local d'urbanisme à la communauté de communes Aigues-Ouvèze en Provence.
Voilà, là encore, c'est la loi qui impose aux conseils municipaux des communes membres de délibérer, sinon on est censé d'office approuver le transfert du PLU à l'intercommunalité. Y a-t-il des questions ?
Pouvez-vous donner la position des autres communes ?
Ça a été unanimement contre, effectivement, comme nous, donc contre le transfert du PLU à l'intercommunalité. Même si certains maires étaient de sensibilité plutôt favorable, sur le principe, ils se sont rangés à la majorité, et donc la majorité est devenue unanimité. D'autres questions ? Donc, je mets aux voix. Qui est contre la délibération ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 6. Procédure de renégociation du contrat groupe d'assurance statutaire du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse, rapporteur Antonio Muga. Ah, j'ai loupé le 5. Ah ben, il fallait me le dire. Hein. Communauté de communes Aigues-Ouvèze en Provence, approbation du rapport annuel 2016 du service commun des autorisations du droit des sols, rapporteur Christine Winkelmann. Il faut que je change mes lunettes.
La loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, dite loi Allure, prévoit la fin de la mise à disposition gratuite des services de l'État pour l'instruction des autorisations du droit des sols depuis le 1er juillet 2015. Pour pallier à ce désengagement des services de l'État, la communauté de communes a créé un service commun sur le fondement de l'article L5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales qui a pour l'objet la mutualisation de l'instruction des autorisations d'urbanisme avec les communes par voie conventionnelle. Par délibération 103 du 25 septembre 2014, le Conseil communautaire a approuvé la modification de ses statuts pour y inclure la création d'un service commun d'instruction des autorisations des droits des sols. Par délibération 2015-01 du 29 janvier 2015, les élus communautaires ont approuvé la création d'un service commun d'instruction des autorisations du droit des sols, ainsi que les termes de la convention entre les communes adhérentes et le service instructeur de la communauté des communes. Ces conventions ont également été approuvées par le conseil municipal des communes qui ont souhaité adhérer à ce service commun opérationnel depuis le 1er avril 2015. Conformément à l'article 11 des conventions signées entre les communes et le service commun des autorisations du droit des sols, un rapport annuel du service rendu doit être produit. Ce rapport a été présenté devant le conseil communautaire le 16 février 2017 et a été transmis à la commune de Camaret-sur-Aigle le 21 février 2017 en vue de son adoption par le conseil municipal. La commune de Camaret-sur-Aigle, adhérente à ce service, est donc appelée à approuver le rapport annuel du service commun d'instruction des autorisations du droit des sols pour l'année 2016. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le rapport annuel du service commun d'instruction des autorisations du droit des sols pour l'année 2016. Y a-t-il des questions ?
Et sur le tableau, en ce qui concerne la commune de Camaret, je vois que a priori on n'a pas souscrit au chapitre des déclarations préalables. C'était un choix fait par la commune et on peut connaître la raison. Parce que donc pour tout ce qui est permis de.
Parce que c'est la mairie de Camaret qui les fait directement maintenant.
Maintenant, c'est-à-dire que.
Oui.
Non, c'est un choix que vous avez fait de pas.
Parce que depuis que Lydie avant a réduit son temps, Lydie est passée maintenant à 2 jours, oui. Et donc maintenant c'est nous qui c'est elle qui le fait directement sur.
C'est pour ça qu'elle a réduit son temps de travail oui, voilà, auprès de la, enfin avec
oui.
La CCA.
Oui, c'est ça.
D'accord.
C'est ça.
Merci.
De rien. Ouais. Voilà, vous constatez aussi que sur 2015, donc par rapport à 2016, vous voyez, sur les DP, c'est la même chose, il y a zéro, tout est noir. Voilà. D'autres questions ?
Merci. Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Donc maintenant, procédure de renégociation du contrat groupe d'assurance statutaire du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse, rapporteur Antonio Muga. Micro, s'il te plaît.
Donc, je passe l'aspect général, donc, à savoir les deux premiers paragraphes. Donc, le contrat groupe d'assurance statutaire du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse, CDG 84, qui regroupe aujourd'hui plus de 80 collectivités, a été conclu pour une durée de 4 ans et arrive à échéance le 31 décembre 2017. Le CDG 84 a donc entamé la procédure de renégociation de son contrat selon les règles de la commande publique, procédure concurrentielle avec négociation. Le contrat que va conclure le CDG 84 comprendra la solution de garantie à destination des agents CNRACL et une solution de garantie à destination des agents IRCANTEC. Il devra couvrir tout ou partie des risques suivants. Agents affiliés à la CNRACL, décès, accident du travail, maladie professionnelle, maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée, maternité, paternité, adoption. Pour les agents non affiliés à la CNRACL, accident du travail, maladie professionnelle, maladie grave, maternité, paternité, adoption, maladie ordinaire. Pour chacune de ces catégories d'agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la collectivité une ou plusieurs formules. La consultation portera sur les aspects financiers, l'étude des garanties, la qualité de la gestion proposée et l'étendue des prestations annexes accordées, statistiques, assistance juridique, programme de soutien psychologique. Les taux de cotisation obtenus seront présentés à la collectivité établissement avant adhésion définitive au contrat groupe. Toutes les collectivités établissements, à l'issue de la consultation, garderont la faculté d'adhérer ou non au contrat groupe ainsi mis en place. Compte tenu de l'intérêt d'une consultation groupée et d'une consolidation mutualisée des résultats de chaque collectivité établissement, Monsieur le maire propose au conseil municipal de rallier la procédure engagée par le CDG 84 pour renouveler son contrat groupe d'assurance statutaire. Vu le code général des collectivités territoriales, vu le code des assurances, vu le code des marchés publics, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, modifiant portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 26, vu le décret numéro 86-152 du 14 mars 1986, pris pour application de l'article 26 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif au contrat d'assurance souscrit par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux. Considérant l'intérêt pour la commune de Camaret-sur-Aigle de pouvoir souscrire à un ou plusieurs contrats d'assurance statutaire garantissant une partie des frais laissés à charge en vertu de l'application des textes régissant le statut des agents. Considérant que la passation de ce contrat doit être soumise aux règles de la commande publique. Considérant que le contrat d'assurance contre les risques statutaires de la commune de Camaret-sur-Aigle arrive à échéance le 31 décembre 2017, ce contrat devant être résilié en respectant le délai de préavis de 4 mois, considérant l'opportunité de confier au centre de gestion de Vaucluse le soin d'organiser une procédure de mise en concurrence et la liberté d'y souscrire et non selon les résultats, considérant l'intérêt de mutualiser, vu la délibération du conseil d'administration du CDG 84 en date du 16 mars 2017 approuvant le renouvellement du contrat groupe, oui la proposition de Monsieur le maire, il est demandé au conseil municipal de décider de confier au centre de gestion de Vaucluse la mission de négocier un contrat groupe ouvert à adhésion facultative auprès d'une entreprise assurance agréée conformément à l'article 26 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 dans les conditions et pour couvrir tout ou partie des risques suivants. Adjoint affilié à la CNRACRL, décès, accident de travail, maladie professionnelle, maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, maternité, paternité, adoption. Les agents non affiliés, accident de travail, maladie professionnelle, maladie ordinaire, maladie grave, maternité, paternité, adoption. Pour chacune de ces catégories d'agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la commune une ou plusieurs formules. Les conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes. Durée du contrat 4 ans, à effet au 1-1-2018, régime du contrat capitalisation. De prendre acte que les taux de cotisation seront soumis préalablement afin qu'ils puissent prendre ou non la décision d'adhérer au contrat groupe d'assurance souscrit par le CDG 84 à compter du 1er janvier 2018. D'autoriser Monsieur le maire à résilier le contrat en cours pour permettre l'adhésion au contrat de centre de gestion, signer tout document relatif à cette affaire, notamment la convention d'assistance technique du centre de gestion pendant la durée du marché comportant ses frais de gestion et adhérer au contrat ainsi mis en place dès l'instant que les conditions garanties proposées sont favorables à la collectivité.
Y a-t-il des questions ? Je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 7, adhésion au service assistance et conseil en organisation, ressources humaines et statutaires du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse, rapporteur Antonio Buga.
Monsieur le maire informe les membres du conseil que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse propose à la commune de Camaret-sur-Aigle une assistance et un conseil en organisation, ressources humaines et statutaires qui s'inscrivent dans la démarche de conduite de changement que les collectivités doivent mener pour faire face aux différentes transformations du cadre institutionnel et politique. Le recours à ce service nécessite une adhésion par convention cadre qui définit les conditions générales de recours et d'utilisation de ces prestations optionnelles, ainsi que les conditions tarifaires propres à chaque type de prestation. Les prestations proposées par le CDG 84 sont conseil en organisation, accompagnement d'une démarche GPEC, atelier de compétences bilan professionnel, aide à la réalisation de documents RH, études juridiques statutaires, aide au recrutement, établissement de la paix, accompagnement ponctuel à l'élaboration de la paix, calcul d'allocation chômage. En signant cette convention cadre, la commune de Camaret-sur-Aigle se réserve la possibilité de souscrire aux différents services proposés en cours d'année. Il suffira ensuite de saisir le CDG 84 via un formulaire de demande d'adhésion à la prestation choisie. Selon la commande, un devis sera établi par le CDG 84 et un calendrier sera fixé. Après signature du devis par les deux parties, la prestation pourra débuter. La convention prend effet à la date de la signature pour une durée de 1 an. Elle se poursuivra par tacite reconduction chaque année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prendra effet 8 jours après la réception de cette lettre. Il est demandé au conseil municipal d'accepter l'adhésion de la convention cadre d'assistance de conseil et d'organisation ressources humaines et statutaires du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse, d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte et document nécessaire à cette adhésion.
Merci. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 8, modification du tableau théorique des effectifs suite à l'application de la loi dite PPCR, rapporteur Antonio Muga.
Donc je ne vais pas vous faire le détail du tableau que vous avez en page 1, je pense que tout le monde a pu le lire et comprendre que chaque agent a pris un grade automatiquement. Donc dans les filières administratives, techniques, filières d'animation et filières médico-sociales. Donc depuis le 1er janvier, donc vu l'article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifié, vu la délibération du 13 décembre 2016 établissant le tableau théorique des effectifs de la commune de Camaret-sur-Aigle, vu le budget de la commune, vu les dispositions statutaires applicables aux différents agents de la commune en matière d'évolution de carrière, considérant l'intégration au tableau théorique des avancements de grade proposés en commission administrative paritaire du 8 décembre 2016 et la nouvelle nomenclature des cadres d'emploi de la catégorie C selon le tableau ci-dessus. Oui, les propositions de monsieur le maire. Il est demandé au conseil municipal d'accepter le nouveau tableau théorique des effectifs tel qu'annexé à la présente délibération.
Oui. Merci. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Alors, au titre des questions diverses, je vous lis la question que m'a posée notre collègue Michel Payalonga. Monsieur le maire, vous refusez de procéder au baptême civil, appelé aussi baptême républicain, bien qu'il n'y ait aucune obligation pour un maire d'effectuer cet acte symbolique. Pourriez-vous expliquer ce refus aux membres du conseil municipal et aux camarades qui en font la demande? Autoriseriez-vous un de vos adjoints ou un conseiller municipal à effectuer un baptême civil? Voilà la question. Bien entendu, je réponds, bien sûr. Et effectivement, nous ne procédons pas dans la commune de Camaret à cette cérémonie qui est une démarche personnelle. C'est une convenance personnelle qui ne fait pas partie des obligations du code civil. Ce n'est pas un acte d'état civil. Ce n'est pas un service public, hein, c'est vraiment une démarche tout à fait personnelle qui n'est absolument pas imposée par aucun texte de loi. Donc c'est la raison pour laquelle nous ne procédons pas à ce genre de cérémonie. En revanche, nous indiquons que des beaucoup de communes, même s'il y a sur les 36 000 communes, il y en a beaucoup qui ne procèdent pas à ce genre de cérémonie, il y en a quand même beaucoup aussi qui le font, et en particulier dans le secteur de Camaret. Donc là encore, aucune loi n'interdit à quelqu'un qui, pour convenance personnelle, voudrait faire procéder à un baptême républicain, d'aller dans quelques mairies que ce soit de son choix, et en particulier, il y en a aux alentours de Camaret. Donc voilà quelle est notre réponse. Comment ? C'est ce n'est pas une obligation.
C'est au bon vouloir du maire.
C'est au bon vouloir du maire, effectivement, de faire procéder à ce genre de cérémonie en mobilisant les moyens municipaux qui vont avec, bien entendu. Y a-t-il d'autres questions ? Monsieur Arcuzé.
Je voulais savoir si la communauté de communes évaluait la qualité du tri dans les niveaux dispositifs de points d'apport volontaire. Parce que visiblement, le tri est très très mal fait.
Alors, le tri, la qualité du tri est de qualité variable. Je ne sais pas, je crois que je ne vous ai pas aperçu lors de la réunion d'information qui était pourtant très intéressante sur ce nouveau dispositif de collecte des ordures ménagères, où il y avait pourtant beaucoup de camarétois. Il y avait tous les acteurs, tous ceux qui ont pris part, qui prennent part à ce dispositif, et en particulier la société prestataire Nicolin, qui nous a effectivement apporté beaucoup de précisions là-dessus. Et qui nous a indiqué que, c'est pas général, mais que dans certains cas, effectivement, le tri n'était pas fait correctement. Donc ce tri est évalué, bien entendu, par la communauté de communes, par la société prestataire, et aussi, vous vous en doutez peut-être, par les autres prestataires, notamment ceux qui accueillent le déchet afin de recyclage, et qui parfois sont obligés de renvoyer la cargaison parce que le tri a été mal fait. Donc si vous aviez participé à cette réunion qui pourtant était vraiment très très intéressante, vous auriez appris que c'est un phénomène qui est constant à chaque fois que l'on met en place ce nouveau dispositif, que l'on bouleverse les habitudes des gens, et que il faut faire appel aussi au sens civique des gens. Ne vous en déplaise, chers collègues, c'est un pli que les administrés doivent prendre pour plein de raisons qui ont été évoquées en particulier dans cette réunion, mais là je ne vais pas la refaire puisque vous n'étiez pas là. En revanche, ce que nous a appris le prestataire, c'est que s'il y a eu des difficultés de mise en place au début, à chaque fois il était constaté que au bout de quelques mois les choses s'amélioraient de façon tout à fait significative. Donc effectivement, ce que vous dites est juste, cela a été relevé par la communauté de communes, mais nous sommes en train de mettre en place un certain nombre de dispositifs pour améliorer l'efficacité de ce dispositif. Vous posez des questions auxquelles vous auriez pu avoir les réponses si vous aviez participé à cette réunion. Alors, il y a plusieurs dispositifs donc qui vont être mis en place, en particulier en ce qui concerne le niveau de remplissage des colonnes, qui va être davantage surveillé. Et puis une meilleure information, une meilleure communication, surtout une meilleure explication sur la façon de procéder au tri, sur les déchets qui doivent être mis à tel ou tel endroit. Là encore, on a constaté qu'il fallait absolument améliorer l'information des gens. C'est pour cette raison que nous avons procédé à cette réunion, qui d'ailleurs a été suivie d'autres réunions dans d'autres communes, puisque effectivement ça a été extrêmement efficace et bénéfique pour tout le monde. Et en plus, je pense que là encore nous allons dans le sens d'une amélioration de ce fameux tri qui vous inquiète, par la mise en place finalement d'une régie. Je sais si vous avez peut-être suivi l'actualité récente, nous allons procéder à la collecte des ordures ménagères par le système de la régie directe, qui nous permettra d'être, nous l'espérons en tout cas, bien plus réactifs à tout niveau. Maître Montagnier.
Oui, le jour de cette réunion, j'étais intervenu en demandant quand même pourquoi on avait supprimé tous les conteneurs plastiques pour les bouteilles et pour le papier. Oui.
ce qui était quand même pratique et qui coûtait quand même là moins cher. Hein. Tout le reste, il fallait le faire. Hein. Mais là, en ce qui concerne les conteneurs plastiques, on aurait pu les laisser, et pour le verre également. Voilà.
Tout à fait. Mais alors, dans le cas justement de la régie directe, ce que tu dis a été évoqué et pris en compte. Hein. Donc, il va être maintenu.
Il y a quelque chose à faire.
Dans certains sites.
Parce que le conteneur ordures ménagères, les conteneurs sont très vite remplis. Je crois qu'on pourrait justement ouvrir ces conteneurs qui sont pour les papiers et pour le verre, les ouvrir aux ordures ménagères. Et maintenir le reste. Ce qui faciliterait, bien, voilà, c'est ce que j'ai dit lors de la réunion. Voilà.
Merci. Alors, pour ma part, j'ai une communication à faire, puisque en ce moment même est projeté sur la commune le film Chez nous, qui est un film de propagande, qui est au 7e art, ce que la nouvelle cuisine est à la gastronomie, c'est-à-dire que c'est loin d'être un chef-d'œuvre. C'est un film politique qui est ouvertement partisan, et d'ailleurs il est revendiqué comme tel par son réalisateur Lucas Bellevaux. Donc je trouve que la projection de ce film en pleine campagne électorale, à moins de 40 jours du premier tour de l'élection, aurait été pertinente si elle avait été suivie d'un véritable débat contradictoire, conformément aux règles élémentaires de la démocratie. Donc je regrette que ce ne soit pas le cas. Le parti politique et la personnalité politique candidate à l'élection présidentielle attaquée dans le film n'a aucunement la possibilité de se défendre. C'est tout à fait antidémocratique. Et je trouve ce procédé d'autant plus choquant que ce film a été financé en grande partie par des deniers publics à hauteur de 2 millions d'euros, apportés notamment par le Conseil régional des Hauts-de-France, France 2 et France 3. Voilà, donc encore une fois, je trouve dommage que ce film n'ait pas été suivi d'un débat démocratique et contradictoire.
Une remarque ou deux ?
Oui, mais bien sûr, on est là pour ça.
Bon, ça, vous savez, vous connaissez le système, hein, le Cinéval qui, dans le cadre de son circuit, programme les films. Alors, bon, vous faites un lien avec l'élection présidentielle qui se profile. Bon, est-ce que vous êtes adressé à Cinéval pour leur faire part de ce que vous nous dites aujourd'hui? Et pourquoi pas, après tout, vous aviez tout loisir, même là, en sortant du conseil municipal, d'intervenir et de débattre avec les spectateurs qui vont regarder ce film et se feront leur propre opinion.
Chers collègues, si j'interviens maintenant, c'est que justement, la programmation a lieu en plein conseil municipal, en plus un conseil municipal très important, puisqu'il s'agit des orientations budgétaires pour l'année 2017 en particulier. Donc nous n'avions absolument pas la possibilité de faire les deux. Je dis pas que ça a été fait exprès, mais je constate et je déplore l'absence d'un débat. Et votre remarque concernant Cinéval est en partie vraie, mais en partie pas tout à fait, puisque c'est la programmation des films sur la commune est faite par Cinéval, mais aussi par Ciné Ravelin. Donc Ciné Ravelin fait un choix parmi les films proposés par Cinéval.
Alors, si je comprends bien, vous soupçonnez donc les adhérents de Ciné Ravelin d'être partisans. C'est ce que vous ne me dites pas directement. Je me ferai un plaisir de leur dire, puisque je fais moi-même partie de cette association.
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Ce que vous sous-entendez.
Je n'ai en aucun cas parlé, c'est vous qui m'avez amené à parler de Ciné Ravelin. J'ai simplement parlé d'une programmation, d'une projection qui a lieu dans la commune, sans débat. Et je trouve que ce procédé n'est pas démocratique.
Ben, il faudrait leur dire, y compris au président de Ciné Ravelin.
Alors, je vous annonce donc la date du prochain conseil municipal qui, théoriquement, devrait avoir lieu le 30 mars. Ce qui reste, comme je vous l'avais dit en début de séance, à confirmer, compte tenu de ce que, pour l'instant, comme toutes les autres communes d'ailleurs, il nous manque un certain nombre de données de la part de l'État. Et je vous souhaite une excellente soirée.